Chapitre 47.
La première fois que Colette a assisté à un match de foot, c'était un dimanche après-midi, le 7 octobre 1956. Le temps était gris, la pluie fine intermittente, la pelouse glissante. Il y avait 820 spectateurs, dont elle, Blaise et le marquis. Colette et Blaise étaient en 7e. Elle avait eu un peu peur d'y aller, peur ou pas très envie. Il n'y aurait que des garçons avec leur père, des fratries entières. À Guignon, déjà, le football tenait la première place. Tout le monde en parlait, mais pour Colette, ce monde n'était pas le sien. Les téléviseurs étaient destinés aux riches, et ses parents ne s'intéressaient pas au sport. Mais partout, on parlait des scores de l'équipe comme on se tenait au courant de la météo. La cour de l'école commençait à peine à être mixte, mais pas les classes. Filles et garçons formaient un vis-à-vis méfiant. À la récréation, alors qu'ils en avaient le droit, et dans l'enceinte de l'établissement, Colette et Blaise ne se parlaient pas. Blaise avait supplié Colette de l'accompagner au stade. Le marquis serait loin d'eux. Il y aurait des cacahuètes et un soda à la mi-temps. Une boisson piquante à l'orange, comme elle n'en avait jamais goûté. Un truc à avoir envie de retourner au match pour l'éternité. « Mais t'es sûr que les filles ont le droit d'y aller ?»« Mais enfin, Colette, dans quel monde tu vis ?»«
Comment je vais m'habiller ?»«
Comme pour l'école. » »« Mais couvre-toi, il peut faire froid dans les gradins. » Le père et la mère avaient donné leur accord. D'aussi loin qu'elles s'en souviennent, Colette avait côtoyé Blaise, et Blaise Colette. Ils avaient fait leurs premiers pas ensemble. Elle dans des godillots, lui dans de jolis souliers. Pour la retrouver, il enfilait une paire de bottes de chasse qui avait appartenu au marquis enfant. Cela avait toujours étonné Blaise que son père ait pu être un enfant. Lui qui avait l'air d'un adulte plus adulte que les autres. Il éprouvait une étrange sensation lorsqu'il enfilait ses bottes. Deviendrait-il comme lui ? Sec et cassant. Au bout du chemin qui séparait l'entrée du château et le corps de ferme, Blaise et Colette finissaient toujours par tomber l'un sur l'autre. Le domaine dominait leur exploitation. Ils se voyaient forcément chaque jour. Blaise n'avait jamais connu une fille faisant un travail aussi pénible. Il avait observé les hommes se pencher sur la terre, labourer, porter de lourdes charges, mais jamais une camarade. De temps à autre, il l'aidait en douce à ramasser les pommes de terre ou à traire les brebis pour qu'elles puissent jouer un peu. Vers l'âge de 6 ans, Blaise lui avait appris à nager la brasse dans l'étang qui jouxtait la forêt, et plus tard, à tenir en équilibre sur un vélo. Colette, elle, lui avait appris à prendre soin de têtards dans une bassine avant de les remettre dans un point d'eau lorsqu'ils commençaient à se transformer. À reconnaître Bolet, Cèpe et Chanterelle, à différencier les mésanges et les chardonnerets, ou à discerner l'odeur des tilleuls, des hêtres et des chênes. Pour ses 7 ans, en guise de cadeau, Colette lui avait mis un agneau dans les bras pour qu'il sente la chaleur de la pureté. L'animal s'était endormi contre lui. Il avait juré que ça avait été son plus bel anniversaire. Jusqu'à la mort de Robin Septembre, elle avait recommencé souvent. Le matin, ils allaient à l'école ensemble. Soit avec la marquise, soit à vélo. Au début, Colette partait à pied. Mais la marquise garait son auto sur le bas-côté afin qu'elle prenne place près de Blaise sur le siège arrière. Plus tard, Jean les rejoindrait à son tour. Colette et Blaise étaient bons élèves. Ils avaient compris que pour avoir la paix, il fallait ramener de bonnes notes à la maison. Surtout Blaise. Pour Colette, c'était plié. Ses parents se fichaient de son carnet. En revanche, le marquis n'aurait pas admis que son fils fréquente une mauvaise élève. C'était le prix à payer. Blaise savait qu'il poursuivrait ses études dans une grande école pour devenir une personne importante. Importante comment? Il l'ignorait. Très tôt, il avait confié son secret à Colette. un secret de malheur qui avait grandi en lui au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, et qui le condamnerait si un jour ses parents et le reste de la terre le découvraient. Colette avait fait semblant d'être étonnée, alors qu'elle avait toujours su que Blaise aimait les garçons. Cette attirance pour le même sexe n'était pas rare chez les animaux. Elle ne comprenait pas pourquoi il vivait sa différence comme une maladie honteuse. Elle se fiait plus à ce que la nature et les bêtes lui enseignaient qu'à ce que les gens racontaient. Pour donner le change, elle avait cherché un secret à lui avouer, en vain. Elle aurait pu en inventer un, mais Blaise ne méritait pas un mensonge. Blaise avait pour sa part horreur du football, mais il était obsédé par un joueur de 3 ans son aîné qui servait des boissons et des sandwichs à la buvette les soirs de match. « Me laisse pas y aller seul, j'ai besoin de toi », avait-il supplié. « Mon père fait peur à tout le monde, et maman le foot. » Colette avait fini par lâcher un « bon, d'accord ». Le match opposait Guignon à Fontainebleau. C'était Guignon qui recevait l'équipe adverse au stade Jean Laville. Colette avait été surprise de découvrir qu'il y avait des filles et leurs mères dans les tribunes, des familles entières. Elle avait trouvé la pelouse immense, plus encore que les pâturages où elle emmenait les bêtes paître. Elle s'était même demandé si elle serait bonne à manger pour les moutons. Ça sentait la nourriture, un étonnant mélange de salé et de sucré, un peu comme à la fête foraine, mais un fumet de viande dominait. « C'est les saucisses !» avait expliqué Blaise. Il portait un manteau bleu marine et des chaussures neuves. De temps en temps, il soufflait dans ses grandes mains pour les réchauffer, tout en se penchant pour apercevoir la buvette, impossible à distinguer de leur place. Blaise ressemblait à sa mère. Même finesse de trait, même blondeur, et des yeux d'un vert impérial. Il avait toujours été immense. C'était le seul point commun qu'il avait avec son géniteur. À quelques mètres d'eux, le marquis était entouré d'autres hommes. Pour la première fois, Colette le voyait sourire. Alors c'était donc ça, le football. Ça rendait les gens sévères heureux. Les chansons dans les gradins, la joie, les rires, la bonne humeur. Cette foule qui se retrouvait pour fêter un événement avait emporté son cœur. À l'apparition des deux équipes, elle avait été saisie par les acclamations des spectateurs qui l'entouraient. Elle ignorait cette liesse. Ça lui avait collé la chair de poule. Son pouls avait accéléré. Elle avait touché l'intérieur de ses poignets. Sous la peau, ça battait fort. Blaise lui avait expliqué quelques rudiments des règles du jeu. Mais au final, il fallait marquer des buts. Comme dans la cour d'école, lorsque les élèves jouaient au ballon et que les cages étaient délimitées par des pull-overs roulés en boule par terre. Marquer des buts et éviter d'en prendre. Il fallait encourager aussi. Les autres hurlaient « Allez !» dès qu'un joueur avait le ballon dans les pieds, même le marquis, surtout le marquis. Le seul endroit où les hommes se permettaient d'avoir des émotions était donc un stade. Les 20 premières minutes, Guignon avait été dominé par les Bellifontains. Leur gardien de but avait dû attendre la 21e minute pour être mis à contribution. Celui de Guignon avait déjà dû détourner 3 tirs très violents aux 12e, 13e et 16e minutes. Et à chaque fois, des soupirs et des cris de soulagement étouffés avaient envahi la tribune. Des gros mots aussi. Ici, ce n'était pas interdit. « Corner !» avaient répété plusieurs fois certains spectateurs. « C'est quoi un corner ?» s'était demandé Colette, sans oser le formuler à voix haute. Trop occupé à attendre la mi-temps, Blaise regardait à peine les joueurs. À la 33e minute, après un nouvel arrêt du gardien de Guignon qui commençait à faire figure de héros, de cocu ou de miraculé, les forgerons avaient renversé la vapeur en marquant un but de la tête. Quand le ballon avait atteint le filet, l'air avait tremblé et tout le monde s'était levé à l'unisson, même le marquis. Surtout le marquis qui, une fois de plus, avait hurlé plus fort que les autres. Certains agitaient des fanions et d'autres des banderoles. Alors elle avait fait comme eux, Elle s'était levée et avait applaudi, sans oser crier, même si elle en avait eu sacrément envie. Dans la tribune nord, des supporters tapaient sur des tôles. Ça faisait un boucan infernal. Plus tard, elle apprendrait que cette tribune nord, recouverte de tôles, avait pris beaucoup de coups à chaque but marqué. Quand l'arbitre avait sifflé la mi-temps, elle avait ressenti un pincement au cœur. Elle aurait voulu que ça continue. Blaise lui avait pris la main et l'avait entraînée vers la buvette, en laissant son père avec les autres. Toutes les tribunes semblaient s'être donné rendez-vous au même endroit. Le but avait électrisé les hommes, les femmes et les enfants. Elle entendait l'espoir dans toutes les bouches. On avait eu peur au début, mais maintenant Guignon dominait. Il faudrait qu'il marque juste après la mi-temps, comme ça la partie serait pliée. Dans la file, plus il s'approchait du stand, plus la main de Blaise dans la sienne devenait chaude et collante. Il avait fini par s'approcher du serveur pour commander 2 sandwichs et 2 pchits oranges. En cherchant des sous au fond de sa poche, il avait balbutié en direction du garçon. « Tu vas bien ? Tu joues quand la prochaine fois ?» L'autre avait répondu « Mercredi, contre Saint-Marcel, au stade de la Villeneuve. » Et il lui avait tendu 2 bouteilles et 2 sandwichs brûlants. « Merci. Salut. » Blaise avait fait demi-tour comme s'il avait vu le diable. Et ils étaient repartis s'asseoir dans les tribunes en jouant des coudes. « Comment il s'appelle ?» avait murmuré Colette à l'oreille de Blaise. « Alain !» avait soufflé Blaise, encore ému d'avoir échangé 3 mots avec le jeune homme. « Eh bien, Alain, il a mis beaucoup trop de jaune dans nos sandwichs. Ça pique !» Ils avaient ri sous cap en savourant le mélange d'orange, de pain chaud et de saucisses badigeonnées de moutarde. Le match avait repris. Aussitôt, Colette s'était sentie heureuse. Non pas grâce à la compagnie de Blaise ou à la boisson magique, mais parce qu'elle venait de s'amouracher de ce qui se jouait entre les joueurs, là, sous ses yeux, dans le froid et la liesse générale. Comme si le football avait voulu la séduire, graver cet amour naissant dans le dur, l'équipe des Forgerons avait marqué un 2e but à la 47e minute. Et ce jour-là, Colette avait appris ce que signifiait libérer la balle sur la ligne médiane, descendre le long du terrain, faire une passe, expédier le ballon au fond des filets, destin, chance, s'en remettre à Dieu.